Tout en descendant précautionneusement sur la couche de neige croûteuse, vers cet extraordinaire labyrinthe de pierre qui se découpait sur le ciel opalescent, nous ressentions la même impression que 4 heures plus tôt en franchissant ce col. D'insondables merveilles nous attendaient. Il est vrai que nous nous étions familiarisés avec cet incroyable secret dissimulé par la chaîne de montagnes, et pourtant, l'idée d'entrer réellement dans ces bâtiments édifiés par des êtres conscients il y a des millions d'années, avant l'émergence de toute race humaine, n'en était pas moins enthousiasmante pour autant, ni moins terrifiante dans ce qu'elle impliquait d'anomalie cosmique. Bien que la raréfaction de l'air à cette altitude rendît nos efforts plus pénibles qu'à l'accoutumée, Danforth et moi-même nous sentions en pleine forme et prêts à affronter tout ce qui pourrait se présenter à nous. Il nous a suffi de quelques pas pour atteindre une ruine informe, rasée au niveau du sol par l'érosion. 60 à 80 mètres plus loin, un vaste rempart dépourvu de toit conservait presque intact sa forme de gigantesque étoile à 5 branches, d'une hauteur de 2 à 3 mètres. Nous nous sommes dirigés vers lui. Et lorsque nous avons enfin pu toucher ces blocs cyclopéens usés, nous avons eu l'impression d'avoir établi un lien sans précédent et presque blasphématoire avec des éons oubliés, normalement interdits à notre espèce. Ce rempart en forme d'étoile et d'une centaine de mètres d'une extrémité à l'autre était fait de blocs de graisse jurassique de taille irrégulière, de 2 mètres sur 3 en moyenne. Il y avait une rangée de hublots ou de fenêtres en forme d'arche, 1,50 m de large et 2 de haut, réparties de façon parfaitement symétrique le long des pointes de l'étoile et de ses angles intérieurs, et dont le bas se trouvait à 1,50 m environ du sol gelé. En regardant par ces ouvertures, nous avons constaté que la maçonnerie faisait presque 2 mètres d'épaisseur, qu'il ne restait aucune cloison intérieure, et qu'il y avait des traces de frises sculptées ou de bas-reliefs sur les murs internes, ce que nous avions deviné en survolant ce rempart et d'autres fort semblables. Bien qu'il ait dû exister des portions inférieures, à ce stade toute trace en était dissimulée par l'épaisse couche de glace et de neige. Nous avons rampé par une des fenêtres et tenté en vain de déchiffrer les dessins muraux presque effacés, mais nous avons évité de nous attaquer au sol glacé. Nos vols de reconnaissance nous avaient indiqué que bien des bâtiments de l'intérieur de la ville étaient moins envahis par la glace et que nous pourrions peut-être trouver des intérieurs intacts menant au sous-sol si nous entrions dans des structures encore dotées d'un toit. Avant de quitter le rempart, nous l'avons soigneusement photographié sous tous les angles et nous avons étudié avec stupéfaction sa maçonnerie cyclopéenne sans trace de mortier. Nous aurions bien aimé que Peabody soit présent, car ses connaissances en ingénierie nous auraient aidé à déterminer comment ces blocs titanesques avaient pu être mis en place à l'époque incroyablement lointaine où cette cité avait été bâtie. Le trajet d'à peine 1 kilomètre vers la cité elle-même, alors que le vent hurlait sauvagement entre les pics derrière nous, restera à jamais gravé dans ma mémoire jusqu'à ses moindres détails. Nul être humain autre que Danforth et moi ne pourrait concevoir de tels effets optiques, sinon dans ses cauchemars les plus fous. Entre nous et les vapeurs mouvantes de l'ouest s'étendait ce monstrueux amas de tours de pierre noire dont les formes délirantes nous impressionnaient davantage à chaque fois que nous apercevions sous un nouvel angle. C'était un mirage de pierres solides et, sans les photographies, je douterais moi-même qu'un tel endroit puisse exister. Le type général de maçonnerie était identique à celui du rempart que nous avions examiné. Mais l'allure extravagante que prenait cette architecture dans ses manifestations urbaines était au-delà de toute description. Même les photos ne peuvent illustrer qu'un ou deux aspects de cette infinie bizarrerie, cette variété sans fin, cette immensité surnaturelle et cet exotisme profondément étranger. On y trouvait des formes géométriques qu'un Euclide aurait eu bien du mal à qualifier, des cônes de divers degrés d'irrégularité et de troncature, des terrasses affichant les disproportions les plus diverses et les plus choquantes, des cylindres avec d'étranges élargissements en bulbes, des colonnes brisées curieusement groupées et des arrangements en étoiles à 5 branches d'un grotesque démentiel. En nous rapprochant, nous avons pu voir à travers certaines zones transparentes de la couche de glace et détecter certains des ponts tubulaires reliant ces structures éparses à différentes profondeurs. Il ne semblait pas y avoir de rue bien ordonnée, la seule voie ouverte se trouvant à plus 1 kilomètre sur notre gauche, là où l'ancien fleuve avait visiblement traversé la cité pour rejoindre les montagnes. Nos jumelles nous ont permis d'observer de très nombreux exemples de bandes horizontales de bas-reliefs presque effacées et de groupes de points sur les façades des bâtiments, et nous avons pu imaginer à quoi devait ressembler la cité, bien que l'essentiel des toits et des sommets ait évidemment disparu. Dans l'ensemble, c'était un labyrinthe complexe de ruelles et de voies tortueuses, profondes comme des canyons, certaines ressemblant même à des tunnels en raison des avancées de maçonnerie et des ponts qui les surplombaient. Maintenant, elle s'étendait devant nous comme un rêve inquiétant, surgissant des brumes que le soleil rougeâtre et bas de l'après-midi antarctique avait du mal à percer. Et lorsque, pendant un instant, ce soleil s'est caché, plongeant toute la scène dans l'obscurité, nous avons ressenti une subtile impression de menace que je ne saurais jamais décrire par des mots. Même les hurlements et les sifflements du vent dans les grands cols derrière nous ont soudain pris une note de malignité consciente. La dernière étape de notre descente vers la ville s'est avérée particulièrement raide et abrupte, et une avancée rocheuse à l'endroit où le niveau changeait nous a fait penser qu'il avait dû y avoir là une terrasse artificielle. Nous avons pensé que la glace devait recouvrir un escalier ou quelque chose d'équivalent. Lorsqu'enfin nous avons plongé dans le dédale de la cité elle-même, escaladant des débris de maçonnerie, avec l'impression d'être écrasé par la proximité des parois étroites et gigantesques marquées par le temps, nos sensations sont devenues si aiguës que je m'étonne que nous ayons conservé le contrôle de nous-mêmes. Danforth, visiblement nerveux, s'est mis à faire des spéculations malvenues sur les horreurs que nous avions découvertes au camp, ce qui me déplaisait d'autant plus que je ne pouvais m'empêcher de partager certaines des conclusions que nous imposait cette cité rescapée d'une antiquité cauchemardesque. Ces spéculations perturbaient également son imagination, car à un certain endroit, là où une ruelle jonchée de débris décrivait un virage brutal, il a affirmé avec insistance voir sur le sol de vagues traces qui ne lui plaisaient pas, tandis qu'à un autre moment, il s'est arrêté pour écouter un bruit subtil et imaginaire provenant d'une source indéterminée. Un sifflement musical assourdi, disait-il, ressemblant à celui du vent dans les cavernes, et pourtant différent.